Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la gamification de réunions et d'ateliers professionnels. Dans un processus d'innovation ou dans l'animation d'un séminaire, le jeu est souvent plébiscité. Ancienne championne du monde de poker, mon invitée abat maintenant ses cartes dans le monde de l'entreprise. Bonjour Vanessa Helbrick.
Bonjour Mathieu.
Alors pour commencer, pourquoi avoir arrêté ta carrière dans le poker et t'être lancée dans un emploi plus traditionnel ?
Oui, alors bah écoute, là j'ai une réponse assez simple, c'est que le poker à long terme c'est épuisant, moralement, mentalement, tout ce que tu veux. C'était dans un contexte difficile, ça commençait à devenir un peu plus difficile de jouer de toute manière en général. Et c'est vrai que moi, j'avais d'autres objectifs aussi. Au bout d'un moment, si tu veux, le 3 de carreau ou le valet de trèfle qui change ta vie, c'est quelque chose qui est... je voulais passer à quelque chose d'un tout petit peu moins superficiel, même s'il y a une profondeur extrême à ce jeu. Il est individualiste. Je voulais passer à quelque chose d'autre. Et c'est vrai que la gamification, c'était une manière de retrouver quand même évidemment le principe du jeu, les techniques du jeu, la stratégie dans le domaine de l'entreprise. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est un nouveau challenge, voilà.
Un challenge un petit peu plus sérieux. Et du coup, dans quelle occasion sérieuse utilises-tu le jeu ?
Alors, moi, j'ai utilisé à pas mal d'occasions, surtout pour en fait le processus d'avant-vente, de cadrage. Donc, ça pouvait être pour cadrer des réunions de CODIR, de COMEX. Ça peut être même du one-shot pour préparer, tu vois, par exemple, quelque chose, un séminaire ou autre. Ça peut être aussi lors de réunions beaucoup plus récurrentes. À la manière un peu d'un Scrum Master. Donc là, tu vas faire des ateliers de manière récurrente. Ça ne va pas forcément être toujours les mêmes ateliers, mais tu vas souvent avoir une équipe, en tout cas, où tu vas faire des meetings de manière régulière. Donc là, il y aura forcément besoin de faire ça très, très souvent. Je l'ai aussi pratiqué pour le e-learning, la montée en compétences, tu vois, tout ce qui est formation. En ligne, là, tu peux assez vite gamifier n'importe quoi en mettant à la clé quelque chose, des badges, quelque chose de qui est en rapport, en tout cas, avec le jeu et un peu aller essayer de susciter cet intérêt, susciter de décrocher quelque chose chez l'utilisateur. Je l'utilise aussi lorsque je fais des conférences sur le langage corporel. J'essaye de faire en sorte que ma conférence soit très participative, donc je mets énormément de jeux à l'intérieur. Il y a beaucoup d'interactions. J'essaye d'en mettre à toutes les sauces dès que je peux. Voilà. C'est ça l'idée. Pour moi, c'est toujours un plus. C'est un outil qu'on peut mettre très souvent à pas mal d'occasions pour enjoliver les réunions traditionnelles, aller plus vite, de manière plus ludique.
Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi d'utiliser le jeu en entreprise ?
Non, c'était pas évident. C'est parce qu'aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui avaient eu cette idée-là avant moi et qui commençaient finalement, qui débutaient là-dedans. Donc c'est vrai que c'était top parce que j'ai pu être aussi au début un peu de ça en France à un moment où c'était pas non plus totalement ancré toujours. Mais à l'époque, il y a 4-5 ans, encore moins. Donc, c'est vrai que ça, c'était super intéressant de voir un peu le début de ça, de voir qui pouvait aussi se faire entraîner là-dedans, parce que c'est pas facile, en fait, de convaincre. C'est ça que j'aime aussi, tu vois, c'est le côté. Il faut convaincre les gens que ça a une valeur ajoutée, parce que si tu leur dis juste, viens faire une partie de Monopoly, même si tu es champion de poker, ça va être cool une fois, mais il ne va pas voir l'intérêt. Donc, il faut vraiment faire très attention à où tu mets les pieds, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant d'aller finalement essayer d'intéresser des grandes entreprises avec ça. Donc, ça paraît superficiel et justement, toi, tu vas montrer le côté stratégique de la chose, l'intérêt, le côté UX aussi. En tant que gamer, tu sais ce qui t'a plu, tu sais comment tu peux te dépasser. Donc, c'est cette expérience-là que tu prétends apporter un peu. Et c'est vrai qu'il faut, il faut challenger les autres aussi pour qu'ils te fassent confiance à ce niveau-là.
Mmh. Oui, tu parles de convaincre les gens, effectivement.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu amènes comme élément pour les convaincre? C'est quoi l'intérêt du jeu en entreprise? Qu'est-ce que ça peut apporter?
Généralement, je vais te dire, on amène ce qu'ils comprennent, c'est-à-dire souvent des chiffres. On va leur prouver que ça marche par A plus B. On va leur dire, voilà, les personnes qui ont suivi, par exemple, telle formation gamifiée, qui ont appris ça de telle manière, elle va retenir à tel pourcentage plus qu'une personne ne l'ayant pas fait. Enfin, tu vois, voilà, on va vraiment dire, attention, les chiffres, c'est que ça va généralement plus vite de le faire comme ça, tout le monde est content et c'est gagnant, voilà. On va essayer de convaincre vraiment là-dessus. Donc là, on peut tout sortir, tu vois, MIT, il y a vraiment HEC, il y a énormément de sondages qui vont aller dans ce sens, qui vont dire que de toute façon, on apprend mieux comme ça, qu'aussi, il va y avoir plus d'engagement du côté de l'utilisateur quand il va participer, etc., etc. Donc ça, on a pas mal de données pour nous. Après, ce qu'il faut, c'est faire ses preuves dans l'entreprise pour le projet, montrer que... ça va apporter vraiment quelque chose. Donc, il faut que ce soit soit de l'engagement en plus, soit du temps gagné, n'importe quoi de mieux, quoi, finalement.
Et du coup, est-ce que le fait que les participants prennent du plaisir à jouer, est-ce que ça fait partie des objectifs ou est-ce que vous avez juste des objectifs chiffrés de pourcentage d'apprentissage, d'efficacité, de temps gagné?
Alors ça, un peu, comme tu dis, le côté pourcentage chiffré, c'est souvent un peu, on va dire, le demandeur. Tu vois, pour lui, il va falloir faire attention à ce genre de choses, évidemment, très concrètes. Maintenant, par contre, au niveau des participants, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que pour moi, et je pense vraiment ceux qui font ça, c'est évident qu'il faut que le participant prenne plaisir. Sinon... tout ça, c'est lié, ça va fausser le chiffre déjà s'il participe pas. On va essayer qu'il boude pas, on va essayer aussi de repérer les trolls s'il y en a, tu vois, c'est-à-dire l'élément perturbateur, ça peut aller vite. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail un peu de gestion aussi d'équipe, de personnes qui s'entendent pas forcément, d'égo des fois surdimensionné selon les réunions. Il y a pas mal de choses à gérer comme ça qui dépassent le jeu. Qui sont à gérer habituellement aussi en temps normal dans une réunion non gamifiée. Et nous, on va dire, ceux qui font ça, je pense, essayent d'apporter quand même une légèreté, même si le sujet ne l'est pas, pour que la personne prenne du plaisir et qu'elle participe plus, qu'elle s'engage plus, qu'elle peut-être elle donne plus d'informations qu'elle ne ferait sinon. Nous, on essaye qu'elle se lâche, quoi.
Et alors, comment est-ce que tu t'assures que l'activité ludique atteint les objectifs fixés par ton client?
Donc là, généralement, en tant que facilitateur, en tout cas pour moi, ou si j'ai aussi aidé à la planification du projet, d'abord au tout début, tout de suite après, savoir si tu as bien senti comment ça s'est passé, l'ambiance générale, ça tu le sais assez vite. Si les participants étaient avec toi, s'ils ont vraiment été motivés à le faire, tu l'as senti et t'es content généralement. À la fin, ça se passe bien, tu sens que t'as passé un bon moment. Ça peut être une journée, deux jours, ça peut être une semaine de séminaire, ça peut être deux heures, mais tu sais comment à peu près ça s'est passé. Et après, par rapport aux clients, justement, ça va être la qualité de ce que tu vas rendre, de ta restitution, de finalement, là, ça peut être, est-ce qu'il voulait beaucoup de données ou est-ce qu'il voulait des données fiables? Ça, on essaye de l'avoir vu avant. Et dans ces cas-là, il faut essayer de répondre à ça au maximum.
Donc, une activité, tu essayes, lorsque tu fais une activité ludique, de toujours avoir un résultat à rendre à la fin, quoi.
Oui, ça, c'est super important. Je pense que c'est vraiment le côté montrer toujours aussi dans ce désir de montrer que ça va au-delà de l'amusement, que tu n'es pas uniquement là pour du team building ou de la cohésion d'équipe. Ça, bien sûr, on va dire, c'est inhérent au jeu collectif pratiquement, mais ça peut aller au-delà de ça. Et si jamais on t'a missionné de quelque chose d'autre, ça peut être n'importe quoi, trouver, la communication future d'une grande boîte, en 2030, ça peut être comment recruter 1000 personnes en 3 mois, beaucoup de choses comme ça. Là, on ne te demande pas uniquement de faire du team building. Tu ne peux pas leur dire juste « allons faire un escape game ensemble et voilà, on est content ». À la fin, on veut vraiment avoir quelque chose, des nouvelles idées, des fois même un prototype, ça doit pouvoir déboucher sur quelque chose.
Alors, quelles peuvent être les raisons de l'échec d'une activité ludique ?
Écoute, alors les échecs, ça peut être justement au point de vue du client, au point de vue du demandeur, c'est justement il t'a demandé clairement quelque chose et tu vas lui rendre un bout pas vraiment exploitable ou finalement les participants ont pas vraiment joué le jeu. Bon, moi je t'avoue, franchement, je ne l'ai pas souvent vu. Je pense que peut-être un élément perturbateur aussi dans le groupe peut éventuellement briser très vite l'homogénéité. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça, comme je te disais avant. Mais à partir du moment où tu as fait attention à ça, on continue. Et normalement, c'est vrai que finalement, l'échec, c'est pas forcément à cause de la gamification, on va dire. C'est plus si jamais en amont, par exemple, le cadrage n'a pas été assez précis avec le client, je pense. Et du coup, tu vas pas atterrir là où il le pensait. Comme ça pourrait arriver en temps normal aussi. En mode classique, on va dire.
Alors, tu as parlé deux fois d'éléments perturbateurs. Et effectivement, je pense que la partie gestion de groupe est importante. Oui. Quelles doivent être les compétences du facilitateur pour à la fois animer une activité ludique, quoi, où il y a un aspect jeu, et puis en même temps quand même avoir cet aspect gestion de groupe et le fait que ça se passe dans un environnement sérieux, entre guillemets, quoi.
Oui, alors moi, je trouve ta question très intéressante parce que justement, je trouve aussi que c'est un peu la subtilité du facilitateur d'atelier. C'est le fait que finalement, il est en posture basse pour ce qui concerne le groupe, c'est-à-dire que souvent, il va jouer sur l'intelligence collective du groupe. C'est pas lui qui apporte les réponses. En fait, il va demander au groupe de réfléchir à un sujet, il va apporter la méthode. Lui, il va dire, voilà, telles sont les règles du jeu, mais lui ne va pas participer, en fait. Donc, c'est pas grave s'il connaît pas le sujet. Il peut parler de nucléaire tant que ses participants savent ce qu'ils répondent. Lui, c'est pas grave. Et surtout, non seulement c'est pas grave, mais en plus, il doit pas se mettre en avant. Il doit pas dire, mais pourquoi vous répondez ça? Moi, j'ai pensé à ça. Jamais. Donc, c'est vraiment une posture très basse où il va recueillir l'information. Mais par contre, il a aussi cette casquette de... c'est lui qui va être garant du temps, du timing. Et à ce niveau-là, c'est vraiment c'est très important dans la facilitation. Tu as carrément des fois une personne qui va faire timeboxing tout seul. C'est lui la timebox carrément. Ou ça peut être un participant aussi volontaire et à qui on va dire est-ce que tu peux minuter tout ça ? Que ça soit en fait minuter la durée de la réunion entière ou minuter les mini-ateliers dans la réunion. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut être aussi en simultané avec d'autres groupes. Donc du coup, dans ces cas-là, on est à la minute près, il faut s'arrêter un peu comme dans Top Chef, tu vois, au bout d'un moment, tout le monde lève la main, ça y est, c'est fini, et on enchaîne sur un autre. Donc dans ces cas-là, si tu fais des ateliers à la suite toute une journée, il faut que ça soit cohérent dans le temps. Et le facilitateur, dans ces cas-là, il a aussi cette fonction-là de plus de coach, donc de posture haute à ce niveau-là, de dire c'est lui le garant des règles, de comment ça va se passer, des règles du jeu. Et c'est lui aussi le garant que ça se passe bien, que les gens soient respectueux. Donc, c'est là où il faut quand même avoir des qualités humaines d'écoute et aussi d'observation. Comme ça, tu peux, de communication, de relation. Voilà, essayer de toujours retomber sur tes pattes avec le jeu. Normalement, tu peux t'en sortir à peu près bien et rebondir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des éléments qui ne sont pas trop dans ton humeur du moment hein, qui ne veulent pas forcément pratiquer ce genre d'atelier. Donc, le job, c'est d'essayer de convaincre ces éléments-là et que surtout, ça ne soit pas contagieux au reste du groupe. Mais dans ces cas-là, il y a aussi les autres éléments. Ceux qui sont super contents, tu peux t'en servir aussi. C'est le contre.
Alors, pour que ça se passe au mieux, j'imagine que tu fais une grosse... que tu organises l'atelier en amont. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu prépares avant d'y aller pour que les choses soient déjà bien structurées?
Alors, généralement, en amont, il y a donc évidemment sur le côté vraiment le sens du pourquoi de l'atelier, c'est le cadrage avec le client qui est vraiment là, très très important. Lui-même peut être gamifié déjà. Et ensuite, avant le jour J, alors là, c'est vraiment une fois les ateliers sélectionnés par le client en fonction de ses besoins, là, tu arrives avec une petite mallette du facilitateur selon ce qui a été choisi. Généralement, il y a toujours des post-it, il y a toujours du scotch de pharmacie pour pouvoir le faire sur les murs même fragiles. Il y a vraiment des feutres de toutes les couleurs. C'est vraiment, tu arrives avec un matériel un peu de professeur d'école. Mais voilà, il faut quand même que dans ta mallette, il y ait pas mal de choses. Moi, j'ai quand même des choses assez improbables, des fois des chamallows, des fraises tagada, des bâtons. Il faut plein de choses qui puissent, à un moment donné, si ça peut servir, hop, tu dégaines. J'ai plein de jeux de cartes différents, bien sûr. Voilà, pas mal de jeux, des petits jeux de cartes, des petits jeux de plateau.
Parce que j'imagine aussi que pendant l'atelier, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Du coup, cette mallette du facilitateur te permet éventuellement d'adapter tes ateliers en fonction de ce qui se passe. Ou est-ce que tu essayes de tenir ou à ce qui avait été prévu au début
Normalement, on va vraiment essayer de se tenir à ce qui a été prévu. Après, il peut y avoir, c'est un peu du live finalement. Donc, c'est vrai, comme tu dis, il peut y avoir un petit problème de dernière minute. Mais généralement, ça ne fait pas changer l'atelier. C'est juste que tu peux avoir un problème de salle, de n'importe quoi, de même de nombre de participants. Et là, il faut rebondir. La petite mallette, bon, elle sert plutôt, oui, effectivement, pour, tu vois, dépanner pour qu'il n'y ait surtout pas de problème logistique, en fait. Que déjà, les problèmes d'organisation, c'est déjà compliqué à changer sur le moment, à bouger. Si en plus, on te rajoute des problèmes de post-it qui ne collent pas, ou en fait, on ne t'avait pas dit, mais il n'y a que des fenêtres. Enfin, des trucs très bêtes comme ça, mais si tu n'as pas pensé avant, tu n'as pas vu l'espace, tu n'as pas regardé où tout était positionné, où il y avait un écran. Bon, ben après, c'est ce genre de choses qui peuvent faire mal. Après, même des trucs un peu où tu ne penses pas non plus, mais pour ta restitution, après, au client et pour toi-même, savoir ce que tu as fait toute la journée, si tu prends des photos et que les participants ont écrit avec un stylo sur des post-it roses, ben, à la fin, tu ne vois rien du tout et il faut compter sur tes souvenirs de la journée. Donc ça peut être la catastrophe, par exemple. Après, ce genre de truc, tu le fais une fois, tu ne le fais pas deux.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités peut-être dans des contextes différents, en atelier, où tu nous as parlé de tes conférences aussi. Qu'est-ce que tu utilises comme petite activité pour animer?
Par exemple, justement, il y a un atelier qui est très fort. En fait, ce sont des ateliers selon le pourquoi. Je vais pouvoir sortir de la mallette, en l'occurrence, c'est une mallette virtuelle, mais plutôt, voilà, quel atelier va être... bien pour cette demande. Donc, par exemple, si c'est une demande de cohésion, team building, il y a des jeux qui vont être top, qui vont demander justement à l'intelligence collective de comparer, par exemple, des résultats ensemble à comparer des résultats individuels en leur faisant une sorte de jeu de rôle, en leur disant, voilà, assez simple, vous êtes à tel endroit... dans telle situation, comment vous allez faire pour vous en sortir? Tu demandes à quelqu'un de faire une liste tout seul et ensuite de parler avec le groupe avant de te rendre une nouvelle liste. Ça, c'est généralement le genre d'atelier qui va faire que l'équipe se parle. Et l'atterrissage de cet atelier, ça va être qu'ils sont forts ensemble et que non seulement ils sont forts, mais en plus ils approchent de la solution beaucoup plus en étant ensemble, en s'étant concertés. Et en ayant communiqué que s'ils étaient restés seuls dans leur coin. Donc, il y a pas mal de ça. Ça peut être même des jeux vidéo de collaboratifs pour, selon le nombre aussi qu'ils sont. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de jeux coopératifs de ce genre-là. Après, il y a des jeux beaucoup plus... issu de l'agilité ou du design thinking, du genre le speedboat ou l'empathy map, où là, ça va être, le speedboat, ça va être vraiment une gestion de projet. Tu vas dire, voilà, je veux arriver à tel objectif. Ça va être mon île d'arrivée. Et mon bateau, c'est mon projet. Les ancres, ça va représenter mes freins. Les vents, ça va représenter les vents porteurs, ce que j'ai déjà. Voilà, c'est une manière imagée, finalement, de faire des brainstorming. C'est pas mal utilisé, ce genre d'atelier. Après, moi, je te dis le speedboat, mais en fait, il y en a une tonne qui découle de ça. Et quand t'aimes le jeu comme moi, on va dire, tu prends le speedboat, mais tu vas le mettre dans un autre univers ou tu vas le transformer en... quelque chose plus vers Star Wars, ou d'un seul coup ça va être sur le thème du Petit Prince. Je vais essayer de rajouter un petit peu un côté grandeur nature derrière, un côté immersif le plus possible, en fait, sans pour autant, tu vois, les faire venir déguisés ou leur mettre un chapeau de Gandalf, quoi, parce que là c'est compliqué. Mais j'essaye de mettre une ambiance, un fil rouge derrière, assez jeu de rôle, voilà.
Est-ce que ça permet, selon toi, de rendre l'activité plus ludique ? Parce que c'est vrai que, là, si on prend l'exemple du speedboat, c'est quelque chose d'assez répandu.
Oui.
Pour beaucoup de personnes, ça ne va pas sembler être un jeu, quoi. Est-ce que, ouais, du coup, cet aspect immersif que tu rajoutes, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments que tu rajoutes pour que ce soit plus ludique ?
Oui, moi, généralement, j'essaye que, justement, oui, ça ne soit pas « pouf, donnez-moi vos post-it, on les met là ». J'essaye de changer un peu... ça peut être, effectivement, s'il y a un facilitateur graphique ou si j'ai préparé le speedboat avant, ben, d'un seul coup, voilà, t'amènes un speedboat qui est beau, ça peut changer déjà la donne, tu vois, plutôt qu'un truc pourri, vite fait, dessiné à la va-vite. Moi, j'ai vu des trucs magnifiques faits par des facilitateurs graphiques. Ça peut être une touche en plus. Après, moi, j'aime bien surtout, oui, rajouter du contexte derrière. C'est-à-dire qu'avant ça, si t'as fait un icebreaker, c'est-à-dire un atelier pour se connaître, un atelier très rapide pour apprendre à se connaître, généralement, cet atelier, il va servir après à faire que les langues vont se délier plus vite, ça va accélérer, finalement, la relation entre les gens. Si tu as fait ça avant, finalement, tu peux essayer aussi de lier tous ces ateliers ensemble selon la journée que tu as construite, selon combien de temps tu avais pour construire ça. Si on t'a dit une journée, une semaine, tu peux faire tout un lien entre tes ateliers. C'est là où on peut arriver à quelque chose, oui, de plus immersif et, je pense, de plus original. Un truc où ils ne vont pas se dire « Oh, encore des post-it, encore le speedboat », voilà. J'essaie de trouver des alternatives à ce genre d'atelier, en fait. Mais après, ça peut être aussi des ateliers pour trouver le nom de ta marque. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Ça peut être aussi... des ateliers un peu façon loup-garou, c'est-à-dire que tu vas, par exemple, pitcher un projet, n'importe quoi, ce que tu as, c'est ton idée de start-up ou une idée de produit, et il y a d'autres personnes qui vont te mentir à ce propos, tu vas essayer de les identifier. Tu vas avoir aussi des jeux où des gens vont être là exprès pour descendre finalement ton pitch ou le noter. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de variantes, en fait, possibles. Et sans parler des jeux qu'on peut inventer sur le moment, selon le besoin client, tu vois, on va mixer. Moi, comme je suis une grosse fan de jeux de société aussi, en général, et de jeux vidéo, j'en ai énormément, et on peut les utiliser, on peut les mixer avec des choses existantes, les prendre et les raccourcir. Donc, c'est finalement une liste de jeux virtuels qui ne s'arrête jamais, quoi.
Ouais, tu te limites pas au type de jeu, quoi. Tu utilises vraiment de tout, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de société.
Ah bah oui, voilà. Moi, j'aime pas me limiter justement à me dire bon bah voilà, maintenant moi j'ai le speedboat et puis j'ai l'empathy map et puis j'ai mon jeu d'intelligence collective. Non, moi j'aime bien en avoir vraiment plein comme ça. Quand on me demande quelque chose, j'ai forcément le jeu adapté. Et si je l'ai pas, eh ben c'est pas grave, je vais customiser. C'est encore mieux et ça fait grossir la liste de jeux. Et après, tu te rends compte aussi que ça tourne toujours un peu autour des mêmes choix. Ça arrive quand même souvent qu'il y ait des jeux un peu stars. Mais moi, je trouve ça sympa quand même d'en avoir plein en proposition. Des fois, ce sont des variantes juste, et des fois, c'est vraiment totalement une autre offre. Ça part un peu, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts et pour tous les besoins. C'est ça qui me plaît. J'aime beaucoup, si tu veux, rallonger cette liste.
Oui, puis vu le nombre de sorties qu'il y a par an, il y a de quoi faire.
Voilà, exactement. Il y a vraiment de quoi piocher, s'inspirer.
Alors, en parlant d'inspiration, y a-t-il des exemples concrets de gamification en entreprise que tu souhaites partager avec nous ?
Oui, alors écoute, choisir c'est renoncer, parce que c'est vrai que là-dessus, j'ai quand même pas mal d'exemples et j'en suis d'ailleurs très heureuse. Donc, je pensais te parler de deux exemples en fait précis, parce que ils sont différents et je pense que ça peut illustrer deux côtés voilà, de la gamification, de ses avantages un peu dans le milieu professionnel. Donc, j'ai été amenée l'année dernière à faire une tournée, une véritable tournée d'un mois pour une grande banque française, pour l'enseigne d'une banque. L'enjeu, c'était de sensibiliser en fait sur la cybersécurité les membres du personnel. Il y avait énormément donc, de sites différents à faire. Donc moi j'avais un stand avec un serious game de type chevalier de Baphomet, donc c'est-à-dire un espèce de point and click, et j'étais entourée de stands avec de la VR, de l'IoT, des drones. On avait Pepper, le robot, enfin je sais pas si j'étais d'ailleurs, il me manque, oui, on en est là, et c'était vraiment super, parce que voilà, c'est vraiment un exemple de la gamification liée à l'innovation. Et qu'est-ce que ça a apporté, je pense, là, vraiment, au bout d'un mois, nous, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'il y avait quand même pas mal de passages. Et il faut savoir que ce genre de stand, les gens ne sont pas obligés d'y aller. C'est pendant leur pause, le midi, quand ils rentrent chez eux. Donc là, il faut vraiment réussir à les accrocher avec quelque chose. C'est pas évident sinon. Et je pense à ça parce que, justement, l'année d'après, ils l'ont fait avec, apparemment, beaucoup, beaucoup moins de succès. Ils avaient enlevé ce côté-là, ils sont revenus à quelque chose d'un peu plus traditionnel, je pense aussi avec moins de budget, mais c'est vrai que du coup, ça a apparemment vraiment complètement raté, le coche cette année. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment, là c'était poignant, parce que ça se voyait que les gens participaient, se prenaient au jeu, quel qu'il soit. Nous, notre stand, c'est pour te dire, on avait un serious game où on a décidé de gamifier après le jeu déjà dégamifié, ce serious game où il fallait donc répondre à des questions de cybersécurité. Nous, on s'est dit, par jour, par site différent, on va faire un classement pour les motiver, on va aller chercher ça en eux, leur motivation intrinsèque de joueur, tu vois, d'aller chercher ça chez les gens. Et de dire, attention, ça te dit pas, dis donc, de battre ton voisin, ton manager ou la fille de la cantine, enfin, tu vois, n'importe quoi comme ça. Et si jamais tu es dans notre classement, on va venir te chercher, on te trouvera dans ton bureau et on va te ramener une coupe. Donc là, on a fait faire une coupe par le Fab Lab de la société où je travaillais. À ma grande surprise, la coupe, par contre, on s'attendait à un super truc, c'était fabriqué en 3D, on était super fiers. Et je reçois un sac et c'était des coupes qui faisait à peu près 2 cm de hauteur. Donc là, on ne s'y attendait pas du tout. Ça pouvait rentrer dans un Kinder Surprise, quoi. Donc là, on s'est dit, on va leur offrir ça. On leur a vendu du rêve, le classement et tout, la compète, et on leur offre ça. Et on a vu que ce n'est pas grave. On l'a tourné quand même comme ça. On s'est dit, bah, ce n'est pas grave, on est fiers de cette coupe. On mettait carrément la musique du foot quand on gagne, quand on leur offrait la coupe. Et il faut voir qu'ils ont joué le jeu à fond. Pourtant, c'est quand même, tu peux te dire, bon, c'est pas pourtant, mais enfin, c'est quand même un milieu de banque, hein. C'est pas obligé qu'ils réagissent comme ça tout de suite. Et là, tu vois qu'ils se sont prêtés au jeu à fond. On a des vidéos et des photos des gens qui se mettent dans des états incroyables. Donc, tout ça pour te dire que c'était vraiment, ça peut vraiment dérouter les gens, mais aussi vraiment les motiver. À se dépasser, voilà, tu peux vraiment voir les gens sous un autre aspect avec la gamification. Et mon deuxième exemple, ça n'a rien à voir, donc c'est un besoin, le besoin client, là, c'est une nouvelle team, finalement, de devs, de développeurs qui ne se connaît pas, n'a pas travaillé ensemble auparavant. et se réunit en une sorte de task force un peu agile, un peu en mode scrum. Là, j'arrive comme ça en les découvrant. Et on me dit qu'en gros, elle doit avoir plus confiance en elle, qu'il faut qu'elle ose prendre des initiatives, qu'elle doit être créative, se lâcher, que finalement, elle apprenne à se connaître très, très vite pour très vite être optimale. Donc là, je leur ai proposé un icebreaker. Je savais que j'avais pas trop de temps, mais une demi-journée à peu près. Je leur ai proposé un icebreaker donc pour mieux se connaître, qui s'appelle All This for Goodies, qui a été inventé par un ami à moi qui s'appelle Jean-Philippe Magne. Donc là, tu fais une première itération en fait en disant aux gens, voilà, admettons, tu vas nous dire ce qu'il y a dans ta magic box. Du Moyen-Âge, donc c'est-à-dire que tu vas devoir faire des goodies mais tu es au Moyen-Âge, donc là tu te rends compte que les gens, la première itération, ils vont tous te répondre, tu leur laisses pas très longtemps, hein, tu leur laisses une minute, ils vont te dire bouclier, fer à cheval, voilà, des trucs classiques. Tu te rends compte que la deuxième minute, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, donc tu les pousses, là tu vas leur dire mais quoi d'autre, et là d'un seul coup il y a un membre généralement de l'équipe qui va commencer à te sortir des trucs du genre une mini catapulte, un collier à dents de loup, une corne de licorne sculptée, enfin voilà, ils peuvent partir sur d'autres choses. Et tu te rends compte qu'il y en a un qui va déclencher ça chez les autres, et ça y est, ils vont se lâcher. Et en fait, là, tu peux faire le lien avec, il y a un atterrissage qui est la courbe de créativité, pour dire voilà, bah, cette courbe, elle va monter difficilement au début, elle va stagner, voire carrément redescendre, t'as plus rien, et puis d'un seul coup, pouf, là, elle va vraiment remonter fort parce que quelqu'un a décidé d'enclencher le truc. Et ça peut être intéressant parce qu'en 5 minutes, tu peux montrer ça. Après, évidemment, dans ce que t'as à la fin, il peut y avoir des choses très, très farfelues, mais n'empêche qu'au moins, c'est pas commun et tu te dépasses. Ensuite, tu peux faire un Moving Motivators, donc ça, c'est un atelier qui est issu du Management 3.0. En fait, t'as 10 cartes et tu classe tes désirs intrinsèques et tu peux, donc les désirs, ça peut être l'excellence, ça peut être la curiosité, la liberté, tout le monde le classe dans son coin. Après, tu peux partir sur voir les points communs, les différences, quel serait l'impact finalement en les changeant, voilà. Et ça, selon le temps que tu as, bon voilà, tu peux faire ça de manière plus ou moins longue. Ensuite, moi, j'avais choisi de faire un Moscow. Ça, c'est un atelier pour trouver le nom, en fait, de quelque chose, pour trouver une marque. Donc, je m'étais dit, on peut le faire assez rapidement. Moi, je voulais qu'ils trouvent le nom, en fait, de leur task force pour qu'après, tu vois, ils en soient fiers, que ça les représente bien, qu'ils partent sur ça. Donc, le Moscow, c'est le M, c'est must. Donc là, tu dois dire, voilà, tout le monde participe et dit, ben, ce nom doit être, par exemple, en français. Le S, c'est should. Donc là, ça doit être court, par exemple, et impactant. Ils vont te répondre. Après, tu as coud. Et là, tu peux dire, bah, je ne sais pas, ça doit être drôle. Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être une fleur, un personnage de BD. Tu as le want. Et là, tu peux dire, bah, ça ne doit pas être en anglais. Ça ne doit pas être compliqué. Voilà. Éventuellement, moi, j'avais rajouté des colonnes en disant, mais si c'était une fleur, si c'était un animal, si c'était une image, un personnage inspirant. Donc, hop, ils arrivent, au bout d'un moment, en tout cas, à sortir un nom assez vite, qu'ils auraient sinon certainement en brainstorming classique mis 10 ans à trouver ou qu'ils n'auraient pas trouvé du tout. Après ça, je leur ai fait un atelier de persuasion. Donc là, si j'avais eu beaucoup de temps, j'aurais sûrement fait un atelier de pitch un peu start-up, du genre tu génères des idées pas faciles à assumer et tu les pitches. Donc en fait, tu tires au hasard, par exemple, l'industrie, la cible, le nom, ça te fait une espèce de combinaison un peu ridicule. Et après, les gens vont voter pour les idées. Et moi, j'ai choisi de prendre un jeu de société d'un ami à moi qui s'appelle Manu Beltrando. Et c'est un jeu de société qui s'appelle Texas Zombie. Je m'en suis servi pour la persuasion parce qu'en fait, c'est un jeu très simple, un party game. Et si tu veux, là, le défi du joueur, c'est d'improviser selon l'énoncé de sa carte en utilisant uniquement les objets qu'il a en main, en fait, pour convaincre le groupe qu'il peut s'en sortir. Et du coup, tu as une carte, par exemple, qui montre 10 zombies qui chargent le joueur. Et dans ta main, ce jeu, tu as une banane, par exemple, et un skate. Donc là, son impro, il doit inclure ça, il doit inclure ses objets. Donc finalement, il doit dire qu'il se débrouille, il arrive à se sortir des 10 zombies qu'il charge avec sa banane et son skate. le groupe, en fait, tout simplement, il n'y a pas de notes ou quoi, il n'y a pas, c'est pas le Monopoly, mais le groupe juste vote à pouce levé pour dire si ça l'a convaincu ou non. Donc, si tu veux, c'est juste déjà, tu te marres bien, hein, t'affrontes vraiment des situations grotesques et dangereuses, complètement improbables, mais en gros, t'assumes ton discours quand même à la fin, tu dois t'adapter à pitcher en terrain inconnu. Je me dis, en gros, tout ça, nous, on l'a fait en très peu de temps, tout ce que je t'ai dit, en 2 heures, c'était fini. Pour moi, c'est un gain de temps pour après, parce qu'après, je vais suivre cette équipe. Et cette équipe, en 2 heures, finalement, ben, tu sais que tu vois, elle aura brisé la glace entre eux beaucoup plus vite. Elle aura son petit nom. Elle aura des fois le dessin qui va avec, le logo, la signature. Elle va démarrer en connaissant ses valeurs communes. Ça, pour moi, ça a apporté beaucoup. Et je les ai suivis après un mois. Et je pense qu'ils ont démarré très fort comme ça. C'était une expérience un peu différente pour eux, voilà. Donc, c'est pour un peu te dire des champs quand même assez différents. Bien sûr, il y a plein d'autres exemples.
Ouais, non, mais c'était super intéressant. Et puis, je mettrai, si je les trouve, les références de tous les petits jeux que tu nous as donnés là, dans la description de l'épisode.
Oui, d'accord. OK. Je peux te donner ces références si tu veux.
Alors du coup, on arrive tout doucement vers la fin. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent utiliser des jeux pour animer des réunions, des ateliers, voire des conférences ?
Je pense que c'est un peu ce que je te disais avant. Le premier conseil, c'est de faire très très attention à pourquoi on a décidé de le faire comme ça. Finalement, convaincre en tout cas que ça va être bénéfique, que c'est pas juste tiens, on va jouer et puis on verra bien. Et là, il y a risque de déception quand même, de se dire bon bah finalement je sais pas trop. Ça, tu vas avoir du mal à savoir ce qu'il en était. Faut bien le préparer. C'est pas parce que c'est du jeu qu'il va pas falloir le penser sérieusement justement, comme toute autre activité. Et c'est à ça, je pense qu'il faut faire très attention, parce que moi, en étant passionnée au début justement, je suis arrivée plus avec la passion qu'avec l'organisation. Mais en fait, c'est évidemment très, très important de la maintenir, même l'améliorer, hein, parce que c'est justement, comme on voyait, très précis. Et sinon, je dirais une bonne humeur permanente pour que on soit justement des bons exemples de ce ludisme, voilà, je pense que c'est important de montrer que cela apporte de la joie de vivre et du plaisir, et qu'on est content de faire ça. En tout cas, moi, c'est le cas.
Mais génial. Ah, merci beaucoup, Vanessa Albuic.
Et merci, Mathieu. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.